Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Jennifer Anne, Chief Marketing Officer chez Auchan. Donc Auchan, en quelques mots, en fait, c'est la seule plateforme où vous retrouverez tous les outils en fait pour promouvoir, analyser et héberger votre podcast, que vous soyez professionnel comme vous dans la salle ou indépendant comme Caroline ici. Et très concrètement, comment ça se passe? En fait, vous venez nous voir avec un fichier audio, avec votre podcast. Nous, on vous aide en quelques clics à vous diffuser en fait sur les 22 plus grandes plateformes du monde. Et ensuite, vous pourrez trouver tous les outils pour communiquer directement sur votre podcast auprès des, enfin sur les réseaux sociaux ou développer vos supports de communication dédiés comme le site web, un audio player ou un joli clip vidéo. Et donc voilà, tout ça se fait évidemment sur une interface hyper facile et agréable à utiliser. Maintenant, la minute auto-promo étant passée. Alors, ta grande question sur quelle serait la bonne méthode. Déjà, comme tu disais très bien, très justement, tout commence d'abord avec votre contenu, en fait. Donc, il faut que le contenu fasse sens, soit pertinent, que vous ayez aussi un contenu adapté à la cible que vous voulez atteindre. Très honnêtement, je pense qu'il y aura des experts mieux placés que moi ici pour vous donner des conseils sur la production. Et je pense notamment à Pierre, à Arthur et puis même à Sandrine et Caroline. Si vous avez un bon contenu que vous amplifiez aussi, enfin, que vous avez une bonne fréquence de publication, moi, la question qui va venir très rapidement, c'est effectivement comment vous avez pensé le plan de communication pour faire connaître votre podcast. Parce que le diffuser, c'est une chose. Donc, votre podcast est disponible sur les plateformes comme Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast et autres. Mais en fait, votre podcast est juste à disposition des distributeurs. Et sachant que ces plateformes d'écoute ont plus de 2 millions de podcasts, le travail ne s'arrête pas là. Vous devez faire en sorte de faire venir les auditeurs à votre contenu. Là-dessus, moi, ce que je donne souvent aux clients, c'est une méthode en fait en trois points. En fait, on va juste partir de la cible, parce que je suis très consumer obsessed. La première chose la plus évidente, c'est vous êtes la plupart d'entre vous sur des marques déjà établies, avec déjà des consommateurs qui la connaissent. Donc, la chose la plus évidente pour moi, c'est faites connaître votre podcast des gens qui connaissent déjà votre marque. Donc partez de votre écosystème existant et de tous les canaux que vous nourrissez déjà. Donc votre site web, les réseaux sociaux de votre marque, etc. La deuxième cible à aller chercher, tout simplement, ce sont les auditeurs de podcasts, mais qui connaissent peut-être pas votre marque. Donc ils connaissent le format du podcast, mais pas votre marque. Donc là-dessus, vous avez un vivier d'environ 22 millions de Français, c'est pas rien, qui est en plus en constante croissance. Et là-dessus, vous devez plutôt potentialiser l'écosystème d'écoute des podcasts, c'est-à-dire comment vous émergez sur les différentes plateformes d'écoute. Donc ça, avec les différentes mises en avant, travaillez bien vos métadonnées et avec des covers attractives, etc. J'irai chercher à étendre mon reach et disons simplement, j'irai chercher des gens aussi qui ne connaissent ni ma marque et qui connaissent pas forcément non plus le format du podcast. Et là-dessus, pour étendre son reach, on irait sur des canaux un peu plus mainstream, comme le SEO, en créant par exemple un site web dédié à votre podcast ou en se diffusant aussi sur YouTube, le deuxième moteur de recherche mondial.
Super.
Merci, je vois que t'étais déjà un peu sur l'amplification, mais c'est ça qu'on aime, c'est le sujet.
Hein.
Moi, ce que je vois, c'est quand je te vois, je vois que t'es aux couleurs de la Content Week. T'as mis un pantalon.
N'est-ce pas? C'est ce qu'on se disait avec l'équipe.
Et donc, je trouve que c'est ça le point, le ping-pong que je ferai avec toi, c'est le conseil que je donnerais moi aussi en écoutant ce que tu nous présentes, c'est d'être fidèle à ce qu'on est nous, en fait. Très souvent, nous, chez YouLoveWords, la première question qu'on va poser à notre client, c'est qui êtes-vous finalement? C'est votre ADN, votre nature, vos racines, vos sources, c'est quoi? Et donc je vais faire le ping-pong avec toi, Sandrine, parce que Decathlon n'est pas une marque comme les autres. C'est une marque qui a une histoire incroyable. On vous connaît bien pour aussi votre R&D. C'est une marque qui innove tout le temps, qui a toujours un temps d'avance, qui met le contenu au centre de son organisation aussi. Je sais que vous avez beaucoup de factories en interne, mais que vous faites appel à des partenaires. Il y a toujours une volonté d'aller trouver la bonne formule, l'équation dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que toi aussi tu peux nous présenter en content audio lead chez Decathlon, qu'est-ce que ça veut dire, et puis nous parler au milieu des plusieurs podcasts que tu produis aujourd'hui, peut-être d'un d'entre eux qui tient un peu plus à cœur, et nous dire aujourd'hui comment vous l'avez conçu, comment vous l'avez produit.
Ok, alors il y a beaucoup de questions là.
Donc te présenter et ensuite parler de ton premier podcast.
Me présenter, donc la terminologie, hein, content, audio lead, c'est un bien grand mot. Juste pour que je suis partie d'une équipe de personnes qui ont des compétences médias, enfin, que ce soit sur la rédaction, les articles, la photo, la vidéo. Et ensuite, on a décliné l'audio. Pourquoi l'audio ? Au départ, c'est juste parti d'une aspiration personnelle. Hein. Je leur ai tellement cassé les pieds, je pense, avec le podcast, qu'ils ont cédé, tout simplement. Néanmoins, effectivement, Decathlon innove régulièrement dans plein de domaines, que ce soit le produit ou les médias, bref. Et donc, effectivement, on avait la possibilité de tester des formats dits innovants pour Decathlon. Et c'est comme ça qu'il y a deux ans et demi à peu près, entre leur casser les pieds et avoir une leader qui m'a dit ben, « Tiens, pourquoi on ne testerait pas des formats innovants ?» Dans la liste des formats innovants, il y avait le podcast et là, banco. C'est un peu difficile d'expliquer. C'est facile d'expliquer comment ça a commencé. Ça n'a pas commencé avec une grande réunion en parlant de stratégie, etc. Ça a vraiment commencé par une opportunité. En disant, voilà, on a, je pense, la légitimité de prendre la parole en podcast. On a plein de gens passionnants et passionnés à l'intérieur de l'entreprise. On a du contenu, on a plein de matières hyper intéressantes, que ce soit sur l'accompagnement du sportif, de la sportive, que ce soit sur le produit. Enfin, il y a une multitude de sujets à travailler, il y a une multitude de sports à expérimenter. Donc, moi, mon intuition, c'était de me dire, voilà, il y a plein de gens, il y a plein de matières qui peuvent être hyper intéressantes à décliner en audio, tout simplement, et le rendre plus authentique, plus immersif. Enfin, je ne vais pas vous décliner tout ce qu'il y a de cool en audio, mais en tout cas, l'idée c'était de transformer toute cette matière et mettre en audio. Et là, je pense que c'était la magie. Il y avait d'autres questions.
Non, et ton point de départ, une fois que tu t'es dit ça, ça a été quoi ? Comment est-ce qu'on commence ?
Comment on se lance ? Alors, comment je me suis lancée ? Il y a une petite chose chez Decathlon. On a quand même une radio qui s'appelle Radio Moquette. Voilà, on a une radio d'entreprise interne, Radio Moquette. Donc, on avait déjà quelques personnes qui étaient un petit peu appétents sur l'audio. Donc, je me suis juste rapprochée d'eux. Et puis, j'ai trouvé un partenaire avec qui travailler. Et on a réfléchi à qui on est, ce qu'on avait envie, voilà, qui on est, surtout Decathlon. Qui nous sommes, notre ADN, nos valeurs, à qui on parle, ce qu'on avait envie de raconter. Et puis après, on s'est juste lancé, on a testé en termes de production, hein, je parle.
Donc, tu as lancé Conseil de sportif, c'est ça ?
On a lancé Conseil de sportif. On a lancé Conseil de sportif et Histoire de sportif. Au départ, on avait deux chaînes. Une chaîne qui est plutôt dans l'accompagnement, démarrer la pratique sportive, répondre à des questions qu'on se pose sur la santé, le bien-être, l'alimentation. Donc, voilà, quelque chose d'assez court et assez pragmatique, j'ai envie de dire. Un modèle assez simple sous forme d'interview. Et le deuxième modèle, c'est plutôt un modèle de divertissement, un récit d'aventure, emmener les auditeurs, les clients dans des grandes aventures sportives. Mon idée, c'était raconter des choses extraordinaires par des gens ordinaires. Voilà, c'était ça, plus ou moins. Donc, il y avait deux formats différents. Et aujourd'hui, il en existe. Enfin, les deux formats sont regroupés dans une seule chaîne qui s'appelle les conseils de sportifs et de sportives. Voilà.
Ouais, super. On va peut-être régler les petits soucis de son tout à l'heure, mais si vous nous entendez bien, c'est quand même le principal. Merci Sandrine, hyper clair. Je propose comme ça, tout le monde se présente, puis après, on va essayer de faire ce qui s'appelle vraiment une table ronde. On va la faire tourner quand même. Pierre, peut-être à toi du coup. Donc sur le marché, il y a pas mal de boîtes qui produisent des podcasts. On en fait partie. Mais Pierre fait ça aussi très très bien. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'il soit parmi nous parce que il a certainement des choses magnifiques à raconter. T'as produit vraiment plusieurs dizaines de podcasts de marque, si je me trompe pas. Ça, c'est une société que tu as, donc qui s'appelle Bababam. Et tu aides aussi via une innovation technologique que tu as lancée à amplifier ces podcasts et à aider les producteurs de podcasts de marque à aller chercher du reach. Peut-être que tu peux nous présenter ça un peu mieux que moi. Et toujours pareil, commencer à nous distiller un peu les deux, trois conseils que tu pourrais donner aux annonceurs, aux marques qui sont là sur la partie production. Je pense qu'on a tous été confrontés à ces méthodologies qu'on a commencé à mettre en place. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins. Mais si toi, tu avais vraiment un truc saillant qui ressortait, ce serait lequel sur la partie production ? Donc, te présenter et puis vraiment à nouveau insister sur les conseils de producteurs que tu es toi aujourd'hui de podcast.
Alors, merci. C'est plutôt très bien pitché. Bravo Grégory. Oui, donc, bam, mon associé est là, Nadia, aussi ce matin. On est aujourd'hui 25 personnes. On est le deuxième ou troisième studio de podcast français. Ça dépend des mois en fonction des mois dans le classement. Mais on fait 1 500 000 écoutes par mois aujourd'hui, après 3 ans d'existence. On a des podcasts signature qu'on crée, donc voilà, de la fiction en binaural, on fait du récit, on fait du conversationnel, on fait plein de, on a plus de 15 podcasts qui sont aujourd'hui installés et qui vivent. Et puis bien sûr, on voit pas le podcast avec des cases, on voit le podcast dans son ensemble. Donc oui, on travaille sur la production, mais oui aussi on travaille sur la diffusion et l'amplification. Et souvent, en réfléchissant sur la diffusion et l'amplification, on arrive au premier conseil qu'on peut donner à une marque, qui est de lui dire « ne fais pas de podcast ». Parce qu'il y a des marques qui n'ont pas forcément justement un storytelling fort ou des ambassadeurs forts, comme c'est le cas pour Decathlon, et qui veulent prendre la parole sur ce format parce que c'est cool, parce qu'elles en entendent beaucoup parler dans des super événements, et pour autant, c'est pas pour autant qu'elles doivent prendre la parole. Elles peuvent aller sur ce territoire du podcast d'autres manières, en faisant du sponsoring, en faisant plein de choses, mais pas forcément en se mettant tout de suite dans un exercice aussi compliqué que celui de tenir la main de gens et d'être dans l'oreille des gens pendant 25, 40 minutes. Aujourd'hui, le podcast de marque, souvent, c'est et c'est pour ça que c'est autant aimé, c'est qu'on passe de longues minutes avec une audience, et donc il faut avoir des choses à lui raconter. Sinon, ça peut vite devenir quelque chose de même contre-productif. Donc voilà, premier conseil, c'est est-ce que je dois vraiment prendre la parole et faire du brand content, ou est-ce que je fais une activation différente sur le podcast ? Et ensuite, si on a répondu à cette première question, bien entendu, c'est comme pour la vidéo, moi je viens de la vidéo avant, il y a autant de formats en podcast et autant de façons de raconter une histoire ou de produire qu'il y a d'audience. Je veux dire, il y a énormément de solutions et de possibilités. Donc souvent, nous, on passe par des phases d'études avant même de produire. Donc ça surprend parfois certains annonceurs, parce qu'on leur dit « non, on ne va pas tout de suite se lancer ». Il y en a beaucoup qui arrivent aussi avec des idées, avec des choses qui... Parce qu'il y a aussi des équipes qui ont envie de prendre la parole et tout ça. Donc, c'est là où on doit à la fois accueillir cette énergie et cette envie, et à la fois se dire « est-ce que vous ne voulez pas qu'on la challenge ?» en faisant d'abord une étude, en se disant « est-ce que ça n'a pas déjà été fait ? Est-ce que sur d'autres marchés, il y a déjà eu ce type de production ?» Et puis, ça nous permet aussi du coup de... souvent d'aller plus loin que ce qui a pu être fait et de tirer des fils intéressants. Et une fois cette étude faite, là on travaille sur la production. Aujourd'hui on produit on a des projets où on produit jusqu'en 7 langues. On fait des productions en anglais d'abord, on a travaillé pour Accor, où on a produit un podcast avec 7 hubs partout autour de la planète, avec des fixeurs au Brésil, avec des ingé-sons partout dans le monde. Donc voilà, on a cette capacité de faire des productions vraiment très poussées et de faire tous les formats possibles. Là, on a produit une fiction pour Alliance, donc réalisateur, comédien, auteur, voilà. On a une capacité de production à la fois sur une variété de formats et à la fois des territoires différents. Et dernière chose, du coup, si on leur a dit qu'ils peuvent produire et qu'ils peuvent prendre la parole, et si on sent aussi cette énergie chez eux, on leur dit aussi, attention, par contre, si vous produisez, il faut un budget média. C'est-à-dire, si vous vous lancez dans le podcast de marque, ne le faites pas en ayant juste une approche organique. C'est comme tout autre projet de contenu. Vous avez un budget pour la création du contenu, vous avez forcément un budget.
Bien sûr. Mais c'est ce que j'allais dire. Quelle est la première question que tu poses à un directeur de marque que tu as devant toi, un directeur marketing ? Alors, c'est peut-être celle-là, d'ailleurs, avant toute chose, ou en tout cas la dernière, mais il faut la poser, cette question. Et Et en préparant un peu la discussion avec vous et avec toi, j'avais vu que l'émotion était quand même un sujet qui était au cœur des podcasts qui fonctionnaient chez vous. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus, ça paraît évident, mais est-ce que c'est une condition sine qua non ? Est-ce qu'on peut faire un podcast qui est instructif et qui n'est pas forcément un moment non plus sur le sujet de l'émotion ? Toi, ça peut être intéressant parce qu'on a des partenaires à nous comme le SCP aujourd'hui qui investissent beaucoup d'argent et beaucoup de temps et franchement avec des équipes incroyables sur le podcast. Et est-ce qu'il faut forcément à un moment être sur une corde sensible sur l'émotion ou est-ce qu'on ou pas forcément
ça... pas nécessairement. Mais par contre, l'un des intérêts du podcast, c'est de pouvoir aller vers l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a une authenticité, une proximité qui se crée. Il n'y a pas de second, comme je dis toujours, il n'y a pas de second écran possible en podcast. C'est-à-dire que si j'écoute un podcast, je ne peux pas écouter quelqu'un d'autre. Donc forcément, cette relation forte, elle permet d'aller loin et d'aller dans l'émotion. Et c'est aussi pour ça qu'on s'investit autant dans la démocratisation de ce format. C'est qu'aujourd'hui, trouver des contenus qui donnent de l'émotion, dans cette guerre d'attention qu'on a, où on a des contenus sous... Et je ne les critique pas, hein, je trouve ça génial. Hein. Moi, je suis le premier à consommer plein de stories, mais il y a un moment où j'ai aussi envie d'avoir un contenu plus long et de pouvoir être plongé dans une émotion parce que la piste de la musique, elle a duré plus d'une minute et qu'elle m'a apporté, elle m'a amené quelque part.
Ah, ok, super intéressant. Arthur, on enchaîne par toi. Donc, t'es cofondateur, co-founder de Magellan. Vous avez fait du chemin depuis que la boîte a été créée. Donc toi, tu vas nous rappeler un peu votre positionnement, votre modèle qui est certainement aussi un peu différent de toutes les autres personnes qui sont là. Vous êtes à la fois un hébergeur et une plateforme et aussi un studio, si je ne me trompe pas, de création de podcast. Et donc je veux bien que tu me rappelles un peu alors, de la genèse rapidement, mais à là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis la question vraiment spécifique que je voulais te poser sur la partie production, c'était quand même d'avoir observé de plus ou moins près hein, le fait que vous soyez lancé sur des verticales assez spécifiques. Est-ce qu'il y a des sujets qui fonctionnent mieux que d'autres sur le podcast de marque ? Alors c'est un peu une question ouverte. Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui que tu observes ? Je sais que le développement personnel est quelque chose qui plaît énormément, sur lesquels les marques peuvent aussi surfer hein, d'une certaine façon. Et donc ça m'intéresse de savoir un peu toi, qui tous les jours met les mains dans le cambouis à sortir des super podcasts premium. Voilà, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui les marques peuvent un peu se greffer et s'intéresser plus spécifiquement que d'autres ?
Grande question aussi. Je vais commencer sur une version courte de l'histoire de Magellan. Donc effectivement, j'ai cofondé Magellan avec quelqu'un de plus connu que moi, puisqu'en général, c'est lui qui est invité, qui s'appelle Mathieu Gallet, qui est l'ancien patron de Radio France. Donc on s'est rencontrés il y a 4 ans et ça a plutôt bien fité, puisqu'on s'est dit qu'on avait envie de créer une belle aventure. Cette aventure, elle est assez simple, c'est de raconter des histoires. Je pense que de toute façon, c'est le point commun de toutes les personnes qui sont là, quel que soit le positionnement dans la chaîne. Et notre vision, c'est OK, le podcast, Apple Podcast, Google Podcast Co, c'est YouTube. Y a-t-il une place pour un Netflix ? Et on est vraiment parti avec ce postulat-là, qui est de dire, de toute façon, le seul moyen de le savoir, c'est de le faire. Et que si le miracle de l'entrepreneuriat fait qu'il y a quelque chose, à la fin, les Américains vont gagner. Donc, autant qu'on se lance tout de suite et on verra bien. Donc, en fait, assez humble, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. On avait juste cette vision-là. Et donc, on a commencé par un modèle plutôt freemium, qui est d'agréger comme les autres tous les podcasts gratuits, plus d'ajouter quelques podcasts payants sur un abonnement. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait évidemment pas la capacité, puisqu'il n'y a pas en fait, de contenu à acheter. Il n'y a pas beaucoup de catalogues à acquérir, comme Netflix a pu le faire au début. Donc, on pouvait commencer avec 10 podcasts max, ce qu'on pouvait faire. Donc, à partir de là, on est devenu un peu les enfants terribles du podcast, savoir qu'on était des pirates voleurs, ce n'est pas particulièrement vrai pour plein de raisons, mais et à ce moment-là, on s'est dit non, en fait, ce qu'on veut, c'est pas du tout avoir cette image-là, puisqu'en fait, on est parti de l'idée de raconter des histoires, et plutôt que de se prendre la tête à raconter notre histoire de pourquoi on fait ça, etc., et ben on va juste repartir sur vraiment le fait qu'on est capable d'avoir un abonnement, des contenus qui sont intégrés, modèle full Netflix, très simple. Et donc, à ce moment-là, on est devenu des vrais producteurs de contenu, puisqu'on a été face à la feuille blanche. On n'a pas assez de contenu, comment on en sort ? Et donc, on a créé Magellan Studio, qui est un studio de podcast, qui pendant très longtemps a été notre propre studio, c'est-à-dire Magellan Studio ne produisait que pour Magellan. Et donc, on a créé 415 podcasts. Donc, 415 IP, ce qui a fait de nous de très loin le plus gros producteur mondial d'IP audio, en fait. Parce que 415 en 2 ans, c'est...
Ce que tu appelles IP, c'est quoi ?
C'est la propriété intellectuelle, c'est de dire un podcast avec un concept, un titre, un nombre d'épisodes X qui peut aller de 1 à 12, 15, 20, 100 si les choses fonctionnent. Donc c'est vraiment, c'est pas 415 épisodes. On a fait quasiment 3000 épisodes. Donc c'est assez faramineux, ça veut dire évidemment une industrialisation, une usine de contenu. Et fort de ça, et bon, on s'est rendu compte que ça pouvait intéresser des gens. Et donc Magellan Studio est devenu un producteur de studio, soit en marque blanche, de podcast, pardon, soit en marque blanche pour des marques, soit en partenariat avec des talents, soit en coédition, notamment pour de la production de contenu autour de livres, etc., etc., etc. Et donc on est devenu un studio sur cette partie-là plus classique, tout en continuant de produire. Et donc Magellan est une plateforme payante par abonnement sur laquelle vous trouvez des centaines de contenus, de livres audio. Et de l'autre côté, il y a Magellan qui est un studio qui,
oh cool,
qui peut ressembler.
Et donc les sujets et les thématiques un peu qui peuvent intéresser les marques aujourd'hui ou sur lesquelles elles pourraient se greffer de ce que tu sens toi du marché, ce serait quoi
Nous, on a toujours cru que le podcast est un petit problème de wording parce que les gens ont une vision du podcast qui est en grande partie, on pose un micro sur une table et on discute, alors soit à 2, à 10, peu importe, mais en tout cas les gens ont cette vision-là, qui est un héritage des premiers podcasts évidemment, alors que nous on voit l'audio digital, l'audio parlé si vous voulez, au sens large et qui est très vaste, qui intègre le marché de la méditation, qui intègre le marché de l'histoire pour enfants, qui intègre le marché du livre audio, qui intègre donc la radio replay, et en fait quand vous accumulez tous ces différents marchés, on arrive à un marché qui est titanesque, et dont les chiffres n'ont rien à voir avec ceux du podcast, et le réel argent est d'ailleurs là. Aujourd'hui, le podcast, c'est un jeune marché en termes de business. Et donc, pour nous, pour les marques, il y a exactement les mêmes possibilités. Pourquoi une marque ne pourrait pas raconter des histoires pour enfants ? Appeler ça podcast, histoire pour enfants, on peut le mettre sur Apple Podcast où on veut, au fond, c'est pas très important. Mais la typologie de ce qu'on peut raconter, elle est démentielle. Une marque peut très bien faire des méditations. Ce qui compte, c'est qu'il y a évidemment une pertinence entre ce que la marque raconte, ce que la marque vend, les valeurs de cette marque, le brand book presque, et évidemment le contenu. Moi, ma conviction depuis le début, c'est que je ne crois pas vraiment aux podcasts de marque, mais je crois aux podcasts faits par des marques, ce qui est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que savoir quelle est l'histoire de cette marque, tout le monde s'en fout. Honnêtement, enfin, le temps a passé sur ces trucs-là. Ça n'a jamais fonctionné déjà en vidéo. Pourquoi ça fonctionnerait en podcast ? On n'a pas envie d'écouter 40 minutes d'autopromo dans le métro. C'est pas ça l'émotion ou les émotions qui sont partagées par le podcast. Par contre, un très joli podcast fait par une marque qui, by the way, le raconte au début, un peu au milieu et un peu à la fin, ça a tellement plus de force. Et d'ailleurs, les plus grands succès mondiaux, il faut plutôt se tourner du côté des Américains pour ça, sont des histoires. Des grandes histoires, et ça pourrait exister même si ça n'avait pas été créé ou financé par General Electric. Et pour moi, c'est ça la force, c'est de faire du vrai podcast, et il est juste financé par une marque, ce qui est un tout petit peu différent.
Le podcast dont Arthur parle, c'est The Message de General Electric, c'est une fiction. Si vous voulez aller l'écouter, c'est très chouette.
Ouais, c'est probablement des plus beaux trucs qui aient pu être fait au niveau mondial. Alors, je ne comprends pas le chinois, donc voilà. Mais en tout cas, dans les langues que je comprends, c'est la plus belle chose que j'ai pu entendre.
Cool. Mais peut-être qu'à Bababam, tu auras ce podcast chinois en français, vu que vous localisez. Et tu me disais aussi, en préparant un peu l'échange, que si on a une marque et qu'on pense qu'on va sortir 5 épisodes et que ça va le faire, ben, faut oublier, en fait. Il y a une notion quand même d'effort, de discipline, qui fait que...
Pour moi, il y a trois grandes typologies de contenu, et elles marchent pour les marques comme pour n'importe quel créateur, qu'il soit studio ou indépendant. Un, il y a des séries. Donc, chapitre 1, chapitre 8, début d'histoire, fin d'histoire. On peut faire un deuxième tome, un troisième, etc. Mais ça, c'est juste une série. Ensuite, il y a ce que j'appelle le contenu addictif, dans lequel il y a entre autres la méditation, entre autres les histoires pour enfants, un petit peu de développement personnel. C'est des choses que les gens écoutent, réécoutent, réécoutent encore, encore et encore. On a fait des méditations, il y a une centaine de méditations sur Magellan, et les gens qui écoutent la méditation pour s'endormir l'écoutent entre 20 et 30 fois par an. Mais je parle d'un épisode, je ne parle même pas d'une série, ils écoutent tout le temps le même épisode. Et ces gens-là n'écoutent que ça sur Magellan. Un épisode. Ils payent tous les mois Magellan pour un épisode. Bon, voilà, et ça c'est quand même particulièrement intéressant. Et enfin, il y a le podcast au sens traditionnel du terme, qui l'a vraiment... créer en fait une communauté d'auditeurs, donc créer une habitude. Et donc il faut qu'il y ait un relationnel particulier avec le host ou les hosts, il faut qu'il y ait un esprit de moi, les podcasts que j'écoute, ce sont que des podcasts de groupe. C'est des groupes de gens auxquels je m'identifie, ouais. Et tout d'un coup ça devient presque des amis que j'ai plaisir à retrouver toutes les semaines ou toutes les deux
donc
semaines.
Le côté collectif un peu, c'est ce qui
me plaît. Mais par contre, c'est impossible de créer cette relation en 4, 5, 6 épisodes. Il faut investir sur 2 ans. Et je pense que Caroline pourra l'expliquer mieux que moi, parce qu'elle a créé sa communauté.
Belle transition, on l'a fait. Merci. Bon, ça vous plaît, ça vous intéresse ? On est tous là. Je vais pas vous demander de poser une question maintenant, mais à nouveau préparé là. Caroline, ça fait doublement plaisir de te recevoir parce que tu es entrepreneur, podcasteuse. Donc moi, j'ai essayé de faire un podcast que j'ai appelé Goldfish, et donc je coche toutes les mauvaises cases. C'est-à-dire que je n'ai fait que 5 épisodes. Non, j'ai essayé de mettre de l'émotion quand même. Et toi, c'est assez incroyable. Donc tu vas nous expliquer donc que tu as créé une boîte qui s'appelle Richmaker et que tu es podcasteuse d'un podcast qui s'appelle Marketing Square. Je crois que tu en as ton 127e ou 128e épisode, 130e peut-être, parce qu'il y en a qui ne sont pas sortis. je sais pas si vous. Qui connaissait Marketing Square ? Ah, quand même. Hein, ouais.
Petit égo.
Ouais, c'est pas mal, hein, ça fait plaisir. Donc voilà, pareil, je voulais bien que tu nous réexpliques qui tu es. Et vraiment, la question qui me fascine, c'est que tu as fait 127 épisodes, donc forcément que tu as vu des choses que tu as pu lancer qui ont fonctionné, d'autres moins. C'est impossible de synthétiser ça en 2 minutes ou en 5 minutes, mais qu'est-ce que tu as envie de partager à l'audience qui est là et à nouveau qui est plutôt composée quand même d'annonceurs ou en tout cas de gens qui ont envie de faire un podcast de marque ou de podcast qui raconte la marque? On t'écoute, à toi.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. D'annonceurs, de podcasteurs aussi, je vois Céline que je connais, Arthur qui était un copain d'école, donc finalement c'est assez rigolo la vie. Pour me présenter brièvement, c'est vrai que moi je suis complètement nouvelle dans ce marché, je suis arrivée en septembre avec Marketing Square, je vous raconterai pendant la conférence de tout à l'heure à quel point j'ai construit Marketing Square sur un cimetière qui était celui de mon ancien podcast qui n'avait pas du tout marché. Donc j'ai appris en accéléré et pour vous raconter très brièvement mon parcours, ça tient en 2 lignes. Je suis partie à la fin de l'école en stage à New York et je suis restée 8 ans, pas en stage mais à New York. Et je suis tombée amoureuse de l'énergie de cette ville et après j'ai eu un truc qui arrive parfois chez les expats, qui s'appelle un pépin de visa. Donc en fait je me suis retrouvée sur le carreau en France après 8 ans et demi aux US en n'ayant jamais travaillé en France. Et du coup, j'ai dû me reconstruire très vite. Je savais qu'il y avait un truc qui me plaisait, c'était la tech. Et du coup, aujourd'hui, je suis CEO de Richmaker, qui est une plateforme SaaS, une web app qui permet aux marques de faire des partenariats. Je suis aussi cofondatrice et CMO de Refer, qui est une application mobile qui permet d'utiliser la recommandation pour faire grandir son réseau. Et j'ai également lancé Marketing Square, qui était un podcast de marque. Et justement, je vous parlerai pendant la conférence de comment est-ce qu'on peut craquer le truc de justement faire un podcast de marque sans faire d'autopromo et en humanisant son contenu et en créant une communauté, ce qui est très difficile à craquer quand on est une marque. La deuxième question, du coup, je ne veux pas monopoliser la parole. Sur les 130 épisodes, effectivement 130e ce matin, pas prévu à l'avance, Grégory, sorti à 2h du matin. Hein, et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a des hardcore fans qui m'écoutent à 2h du matin et qui reçoivent la newsletter et qui me disent en fait, on les attend les épisodes. Donc ça fait trop plaisir et on en parlera du pouvoir en fait du cercle 1. Que vous ayez vos 5 premières écoutes, c'est déjà une victoire parce qu'en fait, c'est souvent les gens qui vont être vos meilleurs avocats, qui vont être vos ambassadeurs, et c'est eux qui font la réussite du podcast. L'autre conseil que je peux vous donner rapidement, moi, mon meilleur hack, ça a été la vélocité. C'est qu'en fait, quand je me suis relancée, je me suis dit, il faut tout de suite que j'ai un back catalogue, parce que l'avantage du podcast, dont on n'a pas encore parlé, c'est l'effet cumulé. En fait, quand vous chopez un nouvel auditeur, si vous avez 10 épisodes, vous avez 10 écoutes. Si vous avez qu'un seul épisode, vous avez qu'une écoute. Et du coup, mon premier challenge, ça a été d'arriver en fait avec une vélocité de 1 épisode par jour, ce que j'ai réussi à tenir seulement pendant 60 jours. Mais c'était quand même beaucoup, week-end compris. Hein. Donc voilà comment j'ai lancé Marketing Square en septembre, avec du coup 1 épisode par jour, ce qui m'a permis aussi d'apprendre en accéléré. Et maintenant, je suis à 3 épisodes par semaine. Et voilà, je pourrais vous raconter d'autres choses, mais c'est comme ça qu'est né Marketing Square. Et c'est vrai, de façon accélérée, en faisant plein d'erreurs, mais plein d'apprentissages.
Moi, je te suis sur Instagram et je vois que tu partages souvent tout l'amour que tu reçois de ta communauté. C'est assez incroyable. Et je pense que tu as réussi, en effet, à créer, on parlait d'émotion tout à l'heure, mais un lien avec, peut-être pas chacun d'entre eux, mais avec cette communauté de gens qui te suit. Et peut-être encore une petite question pour toi, mais tu as fait une 130aine d'épisodes. Est-ce que tu as une structure commune dans ces épisodes? A priori, peut-être peut-être que oui, mais j'ai l'impression que tu t'autorises plein de choses, en fait, plein pas de côté. Elle fait rapper des gens sur son podcast, non, t'as pas fait des trucs comme ça. Ça m'intéresserait, parce que je pense qu'on se pose tous la question, quand on lance un podcast, de la structure de son podcast. Moi, quand j'ai fait Goldfish sur l'attention client, j'ai invité des marketeurs, des potes réalisateurs, je voulais travailler sur comment on scénarise un podcast, comment on scénarise une histoire plutôt. Et est-ce qu'il y a des codes, en fait ? Comment on arrive à faire un récit qui fonctionne ? Et donc, je me suis amusé à inviter des gens assez différents. Et on me disait, tiens, tu pourrais mettre un jingle ici, là, tu pourrais structurer ça, tu pourrais avoir un top à un moment. Et je me disais, tiens, merde, je ne sais plus du tout, en fait, qui écouter et comment je dois structurer mes épisodes. Est-ce que toi, tu te donnes une liberté totale là-dessus ? Ou est-ce que tu as une structure, des piliers auxquels tu reviens tout le temps parce que tu sais qu'aujourd'hui, ton marché te demande ça ou en tout cas, ton audience aime ça ?
En termes de structure, moi, j'ai tout appris sur le terrain. Aucun background média, des grosses lacunes en public speaking. D'ailleurs, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, j'ai dit à Arthur, mais comment tu fais pour parler aussi bien en public ? C'est horrible, ça me tétanise. Et du coup, le podcast, ça m'a permis aussi de faire grandir justement toute cette partie-là, en fait, prendre la parole. C'est nouveau quand on est entrepreneur. C'est potentiellement nouveau si vous êtes une marque, parce que quand le directeur com vous dit il faut lancer un podcast qui s'y colle, je me souviens que c'était pas triste. Ça, je l'ai vécu en entreprise aussi. Sur la partie... oui, il y a une personne qui rappe sur Marketing Square, c'est quelqu'un sur LinkedIn qui était fan du podcast et qui a fait un poème sur le podcast. Et ça, c'est le premier tip que je vais vous donner, c'est l'audit en fait. Auditez votre communauté, cette communauté qui vous suit, c'est d'abord vous qui devez la suivre. Où est-ce que vont les gens? Qu'est-ce qu'ils aiment? Tous ceux qui vous rendent hommage, il faut leur rendre ça. Et en fait, ça, c'est juste le savoir-être, hein. C'est l'école de la vie, c'est quand on te dit merci, bah, qu'est-ce que tu peux apporter en retour? Bah, demander qu'est-ce que tu as envie d'écouter dans le podcast. Ah, tu as créé de la valeur, bah peut-être qu'on peut t'inclure. Tu t'as apporté un commentaire intéressant sous un thème, bah viens présenter ton thème dans Marketing Square. Et en fait, Marketing Square, bah c'est aussi le podcast de tout le monde. Il n'y a aucune sélection sur les invités. Je suis partie complètement à contre-courant de la stratégie des gros invités qui vise à faire grossir son audience. Moi, je me suis dit, je m'en fous d'avoir une grosse audience, mais je me suis dit, en fait, je veux qu'on partage beaucoup de choses et qu'on teste plein de choses ensemble. Et quand tu testes des choses avec les gens, bah, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, parce qu'au pire, c'est que des gens qui t'aiment, qui t'écoutent. Donc, voilà.
Tu suis vachement ton envie, en fait. Par rapport à ma question sur la structure, tu n'es pas en train de te dire « je vais commencer cet épisode et le faire de cette façon-là ». C'est quoi, c'est un dialogue ?
Ouais. Non, jamais. J'ai des épisodes qui font 45 minutes. De base, j'essaie de tenir 10 minutes. De base, j'essaye d'envoyer mon podcast à minuit. Souvent, il part à 2h30. Parfois, j'ai fait une soirée, il part à 9h du matin. Je me mets pas de pression là-dessus. Ouais. Et en fait, le seul truc pour moi qui est important, c'est de continuer à tester. Donc, on va dire phase 1, audit, écoutez les gens. Phase 2, autorisez-vous de parfois être malade, pas sortir d'épisode. Autorisez-vous de mettre quelqu'un qui rappe. Peut-être deux personnes vont vous dire « Ah, je trouve que ça fait pas très quali ». Bah, c'est pas grave, en fait, vous allez apprendre en faisant. Et la troisième chose, c'est funneliser. Et du coup, ça va avec ton côté structure. Mmh. Je vous dis pas que j'ai pas du tout de structure, je vous dis que je suis encore en apprentissage. Et du coup, en fait, à chaque fois que je craque un truc qui marche, je me dis, OK, comment est-ce que je peux le rendre plus efficace? Typiquement, la stratégie des invités, quand j'ai capté qu'un email il marchait trois fois, bah, j'en fais un process et je l'automatise. Et ça, c'est hyper important aussi, ouais. Parce que pour avoir le temps de tester, on va pas se mentir, c'est un luxe d'avoir le temps de tester des choses. Donc dès que vous craquez un truc qui marche, essayez de l'automatiser, essayez de processiser, documenter tout ce que vous faites et vous irez plus vite et vous aurez le temps de continuer à tester.
Trop cool. Merci. Je vois qu'on a déjà pris les notes sur les bons tips de Caroline, mais c'est cool.
C'est après la vraie conf.
C'est vrai. Après, tu vas nous donner ça encore plus en détail. Ça pose quand même la question de l'objectif quand on a une marque et qu'on se lance dans la production d'un podcast. À quel objectif ça, c'est censé répondre en fait? Et donc je veux bien te passer la parole, Pierre, sur la deuxième partie de la discussion, sur la partie amplification. Les clients qui viennent te voir ont globalement quel objectif ? Et a priori, toi, comment tu les emmènes vers celui du reach ? Parce que je sais que le reach est quand même souvent quelque chose sur lequel on vient te chercher. J'ai besoin soit de produire un podcast, soit de l'amplifier. Mais quand il s'agit de l'amplifier, comment est-ce que tu peux aider aussi ces marques-là à atteindre un certain volume d'auditeurs ? Alors, je vais peut-être reformuler ma question, mais tu as beaucoup de tes clients, à mon avis, qui viennent te voir pour à la fois produire un contenu, un podcast et ensuite le rendre visible. Bah, comment, sur cette deuxième partie-là, tu arrives, toi, à le rendre visible à la fois par des conseils pratiques et les solutions que tu proposes ?
Clairement, on se pose, comme on disait tout à l'heure, on se pose tout de suite la question de l'objectif. Et donc, est-ce qu'on va devoir aider sur le reach ? Parce que tu as aussi des marques qui viennent en disant bah, j'ai pas envie de... En fait, le reach, c'est juste, je veux faire un podcast corpo, je veux juste le partager à mes salariés. On ne va pas leur apprendre comment le faire. On va peut-être juste leur donner un moyen technique, mais c'est tout. Après, il y a en effet des marques qui viennent nous voir avec un objectif de reach, et où là, où on rentre dans une stratégie de conseil média. Et en fait, quand moi, j'ai débuté sur le podcast, en tant que producteur, on s'est rendu compte des difficultés qu'on avait à reacher, justement. Parce qu'en fait, le monde du podcast aujourd'hui, qui est basé sur le flux RSS, il a une... et avant qu'on réfléchisse à tout ça, mais il avait un modèle de distribution complètement décentralisé. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Jennifer disait « Je vous mets à dispo sur 22 applis. » Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit les meilleurs sur les 22 applis et qu'on sache... Alors, on y travaille, hein, mais qu'on sache vous dire, bah là, il faut que tu fasses un artwork de telle taille, il faut que tu connaisses l'algo d'Apple. Attends, on le connaît pas, mais on a craqué ci, ça, ça, avec notre expérience. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà confier à nos clients, en leur disant, bah, si on fait ça, on va monter plus vite sur Apple, et puis là, on fera pareil sur Spotify. Sauf qu'Apple, ils vendent des téléphones, ils vendent pas de reach. Spotify, ils vendent des abonnements, ils vendent pas de reach. Et puis, toutes les autres applications, bah, plus on avance, plus elles sont petites. Et donc, moins on peut contrôler son reach. Donc, moi, en tant que producteur, je vivais cette difficulté. Donc, je me suis dit, mais quand tu es une marque, mais ça doit être terrible. Parce qu'en fait, tu ne peux pas contrôler. Et contrairement à Facebook ou YouTube, où tu pouvais quand même mettre un petit billet et dire, bah, j'ai une partie organique, mais j'ai aussi du média, et je viens booster mon contenu, là, tu ne pouvais pas le faire. Donc, quand on a commencé cette aventure, on a ramassé des annonceurs à la petite cuillère qui avaient mis 500 000 balles dans des prods et qui avaient fait 500 écoutes. Je ne blague pas. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, comment on peut redonner le contrôle aux marques qui ont créé le bon contenu ? Là, moi, je trouve qu'on a dépassé cette question de « faut créer le bon podcast de marque ». Oui, bien sûr. Il ne faut pas faire de l'autopromo et tout ça. Mais allez, on a dépassé cette partie-là. Elles ont le bon contenu, elles racontent une belle histoire, c'est intéressant, c'est bien produit. Comment on fait pour le mettre à disposition des gens ? Et en fait, on a retourné le truc en se disant, bah, il ne faut pas qu'on ait une distribution décentralisée, il faut qu'on soit distribué sur un site web, que l'expérience ce soit exactement la même que si on était sur une application de podcast ou de musique. Et donc, on a créé un produit qui s'appelle PodInstall, mais qui est pour nous le cœur de Bababam aussi, parce que c'est une techno et qu'elle sert à démocratiser le podcast. Et nous, c'est notre enjeu, démocratiser l'audio. Et du coup, en fait, cette solution, je vais rentrer dans des choses un peu techniques, mais elle crée des progressives web apps. Donc, c'est exactement comme si vous étiez sur une app, sauf que vous êtes sur un site web, vous avez votre URL. Et vous pouvez distribuer cette URL sur tous les canaux d'audience du web. Le SEO, bien sûr, mais les agrégateurs de news, Google News, Google Discover, vous pouvez le distribuer sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi créer un actif, puisque comme ce sont des progressives web apps, vous pouvez générer de l'abonné. Donc aujourd'hui, nos annonceurs, ils viennent prendre cette technologie et créer leur propre web app podcast. Et ensuite, ces web app podcasts, elles sont aussi utilisées par tous les grands médias qui, comme Le Parisien, 20 Minutes, Elle, on travaille avec et de grands podcasteurs comme Fabrice Florent, comme Chose à Savoir ou autre, qui utilisent cette solution web pour gagner plus de reach. Et du coup, nos annonceurs, et Decathlon l'a fait d'ailleurs, Sandrine l'a fait, ils viennent acheter des budgets médias pour être vus aussi sur ces points de passage. Et donc, on va avoir... Le podcast, on a produit récemment le podcast du Paris Saint-Germain, il va être mis en avant sur Code Source du Parisien. Et du coup, les gens vont découvrir que le Paris Saint-Germain a fait un podcast et ils le découvrent en écoutant le podcast du Parisien. Et de la même façon, on va avoir Decathlon qui va être mis en avant sur les podcasts d'Eurosport et qui va trouver et qui va reacher et atteindre une nouvelle audience qui n'était pas forcément sur Apple ou sur Spotify ou ailleurs.
Cool. Donc quand j'ai rencontré Pierre, je me suis dit enfin une solution qui va nous aider à atteindre ce reach qu'on cherche. Vous allez voir, ils vous ont préparé avec Nadia tout à l'heure dans la deuxième partie vers 11h15, 11h30 des études de cas qui vont permettre de vraiment comprendre comment ça fonctionne et combien ça coûte. Ce que je pense que c'est une question qu'on se pose tous, c'est ok, c'est super si je pouvais embarquer mon podcast sur des sites médias en progressive web app et générer du reach. Et, ok, mais pour quel budget, pour quel KPI, pour quel résultat? Et on verra ce que tu peux nous dire de ce point de vue-là, mais je crois que on est sans langue de bois et l'idée c'est vraiment de se dire tiens, ok, bah, moi j'ai ce budget-là, j'ai mis ce budget-là dans la prod, je vais pouvoir mettre ça dans le média. Et notamment.
Juste, c'est hyper important ce que tu dis, c'est quel KPI? Et souvent, dans le podcast, les KPI, elles sont compliquées. Parce que justement, on n'est pas dans un environnement web et qu'on doit consolider les stats de 22 applications différentes. Et donc, en ayant cette approche web, on a des KPI très clairs. Et donc, on garantit des écoutes et pas juste des téléchargements. Et on garantit un temps moyen, on donne un temps moyen d'écoute. Donc, c'est quand on est dans une direction marketing et qu'on doit travailler sur un bilan, c'est quand même sympa d'avoir des KPI aussi tangibles que celle-là.
Non, super intéressant. Je voulais refaire un petit ping-pong entre Jennifer et Sandrine. Tu as le droit, Jennifer, de faire un peu la promo pour le coup de chat, qu'on comprenne bien ce que vous appelez le Social Media Manager. Vous avez une solution intégrée, all-in-one, j'ai envie de dire, qui permet vraiment aux marques de faire décoller leur podcast. Donc, vous répondez à ce sujet de l'amplification. Pas de la même façon que Bababam, mais justement de façon assez complémentaire. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne ce Social Media Manager? Et après, voilà, échanger peut-être avec Sandrine sur comment elle s'est appuyée dessus, parce que je sais que ce Social Media Manager permet de générer des assets dont on a tous besoin sur nos différents réseaux sociaux. Et je crois que ce que vous avez fait ensemble a vraiment plutôt bien fonctionné, donc on va peut-être faire un petit dialogue entre vous deux là. Mais je veux bien que tu nous réexpliques ça.
Oui, très bien. Alors déjà, effectivement, on a intégré un social media manager dans notre plateforme. Juste pour vous expliquer pourquoi déjà on l'a fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 35% des auditeurs de podcasts qui découvrent des podcasts via les réseaux sociaux. Donc plus d'un tiers le découvre via ces canaux-là. Et ils sont vraiment surconsommateurs par rapport à la moyenne nationale parce que l'auditeur de podcast, selon la dernière étude CSA Havas, utilise, je crois, en moyenne 5 réseaux sociaux versus 3 dans la moyenne française. Donc ce sont des canaux privilégiés à travailler quand on a un podcast qui soit professionnel ou indépendant, comme Caroline les travaille très bien. Donc, pour répondre à ça, nous, si vous voulez, il fallait absolument aussi aider nos différents podcasteurs à avoir de la communication dédiée à leur podcast sur ces canaux. Sauf que, pour ceux qui ont déjà travaillé le social media, vous savez comme moi que c'est extrêmement énergivore, extrêmement chronophage. Ça demande en moyenne 3 à 4 outils différents pour pouvoir gérer ça. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est en fait de tout intégrer directement dans notre plateforme, là où vous gérez directement votre podcast. Et à partir de la publication, par exemple, de votre épisode, en fait, vous allez pouvoir poster automatiquement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, soit en post-image, soit ce qu'on vous recommande, en espèce de clip vidéo. Donc ça reprend votre extrait audio, ça vous génère automatiquement un joli clip avec une auto-transcription, une belle audio wave, pour pouvoir justement être publié sur les réseaux sociaux et faire découvrir ou faire revenir sur votre podcast. Et là-dessus, effectivement, ouais. Sandrine est une power user de cette fonctionnalité. Et je crois qu'effectivement, t'en génères pas mal.
Pour compléter ce que tu dis, après, je pense que tu as quasiment tout dit, mais effectivement, je l'appelle le kit de communication. C'est un petit peu particulier, par contre, chez Decathlon. C'est qu'en fait, il y a une organisation un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse entité qui va s'appeler la Com France. Et après, je vais avoir 70 startups à mes côtés. Ces 70 startups, ce sont des sports. Parce qu'en fait, chez Decathlon, il y a une grande multitude de sports. Et tous ces sports sont représentés par des petites startups. Et dans ces petites startups, il y a des services des entités de communication. Et ils sont tous autonomes et responsables. Donc, ce n'est pas uniquement le gros noyau de la Com France qui va communiquer, qui va médiatiser, etc., etc. Mais donc, c'est toutes ces petites entreprises. Donc, moi, ça m'aide énormément parce que ce que je fais, c'est qu'effectivement, à chaque publication, chaque semaine, un épisode est diffusé. Je récupère tout ce dont j'ai besoin sur ce fameux kit de communication, on va dire. Et moi, après, je vais pousser tout ce kit de com à mes petites startups. Voilà, à mes 70 startups. Voilà, c'est ça. C'est...
Parce que là, la moitié du boulot est faite, en fait. Maintenant, il faut arriver à amplifier en fait, les podcasts produits chez Decathlon par les équipes de Decathlon et que tout le monde se les approprie. Et...
Exactement. Ouais. En fait, j'ai double job. J'ai double boulot.
Et on va montrer, je crois, le détail en fait, du kit de communication que tu livres à chaque catégorie dans notre case studies juste après la table ronde.
Oui, exact.
On va avoir un case study qui nous permet de rentrer un peu plus en détail là-dessus. Mais je sais, en parlant avec Jennifer, avec toi, que vous avez quand même pu vous battre, même si c'était une évidence, à ce que le podcast devienne florissant chez Decathlon. Voilà, l'adoption par les équipes de ces sujets-là, c'est toujours une vraie problématique. Et je crois que grâce aux assets que vous avez mis en place ensemble, ça a bien fonctionné.
En tout cas, ça a facilité mon combat.
Ouais. Et peut-être Jennifer nous parlait du club. En fait, vous avez un club chez Ocha, un club de podcasters. Et j'avais envie de faire un pont avec Caroline derrière parce que il y a un sujet en fait qu'il faut pas sous-estimer non plus dans le cadre de l'amplification du podcast, c'est la cross promotion en fait ou le cross marketing. Et quand on a des invités, des guests et qu'on arrive à se renvoyer la balle, c'est quelque chose généralement qui peut très très bien fonctionner et vous amener des vues. À moindre coût, j'ai envie de dire. Donc peut-être nous parler du club et voir avec Caroline si c'est des choses que toi tu as mises en place, que tu continues de mettre en place. Enfin, je crois que tu as commencé un peu à répondre à ça tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant de parler de ce point-là.
Ouais, parce qu'en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a la chance d'héberger la plus grande communauté de podcasteurs indépendants français. Donc Caroline fait partie et c'est une de nos meilleures ambassadrices. Et du coup, quand on avait une communauté aussi grande, qui avait très envie de pouvoir échanger plus avec nous et aussi entre eux, on a décidé en fait de créer une communauté fermée sur une plateforme annexe de notre plateforme d'outils, donc qui s'appelle le Club Ocha. Et où effectivement se retrouvent tous les podcasteurs. Alors aujourd'hui, surtout trustés par les podcasteurs indépendants, mais on commence à voir aussi des podcasteurs professionnels, des annonceurs qui s'y baladent et qui trouvent aussi leur compte grâce au contenu exclusif, à l'entraide et surtout effectivement à la matching room qui permet en fait, c'est un lieu, c'est dans cette interface qui permet la mise en relation de podcasteurs entre eux pour effectivement échanger un peu des deals de visibilité. Très concrètement.
Comment est-ce qu'on peut intégrer cet espace-là?
C'est dans le club Ocha, donc à partir du moment où on est hébergé chez Ocha, vous avez directement accès à ce club. Okay. Et dans cet espace, ce qui s'y trouve, c'est qu'effectivement, chacun va un peu poser une annonce et essayer de trouver en fait, des podcasts affinitaires, enfin avec des audiences affinitaires, et proposer, est-ce qu'on se prépare un échange soit de pour s'interviewer mutuellement, soit faire de la street, soit pourquoi pas juste aussi du pré-roll, etc. Et
ça fonctionne? Les gens s'en servent ou c'est plus une belle promesse?
Ça marche très bien et surtout, c'est un bel apport d'audience. Je pense que là, Caroline pourra vous raconter un peu son expérience.
Ça s'auto-gère, ce truc-là. Vous n'intervenez pas, en fait.
Non. Ouais. Alors, on donnait au départ un peu la main. C'est-à-dire qu'on entremettait les gens. On disait, tiens,
ça sera intéressant,
parce que j'ai Louise, ma super community builder, qui connaît très bien la communauté et qui, effectivement, au bout d'un moment, savait faire rencontrer les bonnes personnes entre elles. Ouais. Mais ça a été, honnêtement, la première semaine de lancement. Et en fait, la magie, nous, avec les podcasteurs avec qui on travaille, c'est qu'après, ils amplifient d'eux-mêmes très rapidement et de manière très puissante.
Bien sûr.
Et moi, le message aussi que j'ai à travers ça, et Caroline pourra vous en dire plus parce qu'elle l'applique très très bien, c'est que même quand on est un podcast de marque, il ne faut pas hésiter en fait à s'appuyer sur les podcasteurs indépendants parce que ce sont des incroyables créateurs de contenu qui ont des audiences hyper, hyper, hyper engagé. Comme Caroline vous l'a raconté, ils sont juste... Elle a des hardcore fans et ce serait dommage pour vous de ne pas pouvoir aussi leur en parler si vous avez... je pense à notamment Iconosquare qui est aussi dans la salle aujourd'hui, qui est déjà sponsor de Caroline. Ça leur permet aussi de discuter avec une audience qui peut être intéressée par leur plateforme. Il ne faut pas hésiter à s'associer et se reposer sur les podcasteurs indépendants, à proposer soit de la cross-promotion, il ne faut pas hésiter à leur laisser aussi prendre la parole sur votre podcast de marque, soit à minima, effectivement, proposer du sponsoring.
Ouais. C'est comme dans le business, souvent on dit faut jeter le stylo. Très souvent, on a peur de demander l'effort à l'autre, en fait, de dire tiens, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Mais dans 80% des cas, je m'étais pas mal intéressé à ça. Dans 80% des cas, quand on demande de l'aide à quelqu'un, en lui exprimant pourquoi on a besoin de lui, il est super content de nous aider, en fait. Donc ne pas hésiter en effet à se rapprocher d'un podcasteur qu'on aime bien et lui dire tiens, ça serait cool qu'on fasse des choses ensemble. Je sais pas si toi d'ailleurs, la dernière fois que tu as pu faire ça, tu as un exemple à nous partager là-dessus, ou c'est quelque chose que tu fais régulièrement, ou pas tant que ça la cross-promotion?
Alors, pas tant que ça. Je ne veux pas vous décevoir. En fait, je trouve ça génial, le Club au chat, parce que justement, quand j'ai lancé mon podcast, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même un sacré réseau pour lancer un podcast. Déjà, si tu veux un sponsor, va quand tu es indépendant, démarcher des marques que tu n'as pas forcément les codes, que tu n'as toi-même pas bien compris comment ça fonctionnait, que tu n'as pas de studio. Et que personne t'a fait confiance avant. Donc déjà, merci Iconosquare. Deuxièmement, trouver des invités. Quand t'es personne et que t'as pas d'audience, t'as le genre de réaction qui est arrivé encore à une copine dernièrement, un mec qui dit « Reviens me voir quand t'as 10 000 followers ». Donc ça, voilà, bienvenue dans ce milieu où il y a quand même, voilà, il y a des petits, parfois il y a des petits abus de zèle. Et puis la troisième chose, c'est la cross promo. En fait, malheureusement, c'est aussi pareil quand t'as un podcast qui vient de débuter. C'est difficile d'aller voir d'autres podcasteurs en leur disant que tu as envie de passer avec, que tu as envie de passer dans leur podcast pour faire la promotion du tien en plus. Donc moi je l'ai pas trop fait, moi j'ai fait justement à contre-courant, j'ai fait la stratégie des petits invités et il y a un truc que j'adore, c'est un peu l'effet la lettre de Poudlard. En fait, quand je prépare un épisode, je vais sur LinkedIn et je tape le nom de mon thème. Donc je sais pas l'ABM marketing par exemple. Et en fait, je vais regarder les posts. Et je vais regarder les posts les plus intéressants. Et parfois, je prends des posts où il y a 2 likes et j'envoie un MP et je dis c'est génial, j'adore ton carrousel. Je le dis pas souvent, j'exagère un peu. Mais je vais dire j'aime beaucoup ton post, on pourrait en faire un épisode, est-ce que tu veux passer dans le podcast? Et en fait, ces gens qui sont pas habitués en général, c'est leur premier podcast. Je sais que Romain de You Love Words, c'était pareil. J'ai reçu la newsletter You Love Words avec leur livre blanc. En fait, il y a tellement peu de gens qui font des très bons contenus aujourd'hui que moi, je suis du genre à répondre aux newsletters en disant « bravo, c'est génial ». Et du coup, j'ai répondu à cette newsletter en disant « venez en parler dans le podcast ». Voilà la façon dont aujourd'hui, je fais de la cross-promo. Donc, c'est vrai ce qu'on va vous dire. Il faut trouver des audiences. On en parlera d'ailleurs. Je vous donnerai le petit outil que j'utilise pour trouver des audiences qui matchent justement en termes de volumétrie, en termes de typologie. Mais aussi, quand on est podcasteur, encore une fois, notre but, ce n'est pas de faire grossir notre audience. Notre but, c'est aussi de mettre en lumière d'autres gens qui n'en ont pas. Et moi, j'ai fait la stratégie inverse. Et en général, dans le podcast, j'ai toujours eu des gens qui avaient moins d'audience que moi. Mais en fait, quand tu crées cet effet waouh, tu leur donnes envie de se lancer. Ils vont faire d'autres podcasts. Ils ne vont jamais t'oublier. Ils vont parler de toi. Ils vont continuer à écouter les tiens. Et ça, en fait, c'est de la croissance sur le long terme aussi.
Ouais, non, hyper intéressant. Ouais, tu voulais réagir ?
Et Sandrine, il me semble que toi, tu t'es associée aussi avec un podcasteur indépendant de
Coussetti. Oui, il est dans la salle d'ailleurs. Donc effectivement, les podcasteurs indépendants et les marques peuvent se côtoyer et faire du bon boulot ensemble. Effectivement, je l'ai fait avec Course Épique, avec Guillaume qui est là-bas au milieu. Voilà, et ouais, c'est très cool. Très, très cool.
Génial. J'avais 2 petites questions à te poser toujours. Donc tu as ton podcast d'un côté et ta boîte de l'autre. À quel objectif répond ton podcast pour le coup? Est-ce que tu as un objectif de business vers Richmaker ou c'est un terrain de jeu sur lequel tu ne te fixes pas d'objectif?
Encore une fois, de base, il n'y avait aucune stratégie à part faire un maximum de choses en un minimum de temps, pour être complètement transparente. Aujourd'hui, on va dire que le hub, c'est ma marque personnelle. Ma marque personnelle, c'est aujourd'hui ce que je sais bien faire, c'est écouter les gens et les mettre en relation. En fonction de ça, qu'est-ce que je traque comme réussite à partir de mon podcast? Va y avoir des inscriptions sur Richmaker. Alors, l'avantage, c'est la qualité d'attention dont Gwendoline nous parlait si bien. En fait, ça, je l'ai vu à quel point c'est magique. C'est-à-dire que autant quand je vais faire des posts sur LinkedIn ou que je vais avoir un contact un peu froid de prime abord, il y a beaucoup d'inscriptions en démo. Donc, les gens bookent une démo où ils vont sur le site. Et en fait, avec le podcast, j'ai des abonnements en direct de gens qui me disent « je suis venue parce qu'en fait, tu m'as convaincue ». Parce que, en fait, il y a une telle qualité d'écoute, qualité d'attention et aussi du love, en fait, parce que les gens, t'es dans leurs oreilles. Donc, en fait, au fur et à mesure, ils te font vraiment confiance, pas comme un post sur LinkedIn, une vue ou des vanity metrics. Donc, ce que je traque, ça va être ça. Le taux de transfo est meilleur. Deuxième chose, les téléchargements sur Refer. Mmh. En un épisode, on a fait 400 téléchargements sur une app qui était sortie depuis un mois et qui avait 2000 utilisateurs. En fait, ça fonctionne. Et la troisième chose, c'est des conférences. Aujourd'hui, je forme sur LinkedIn le groupe Kering pour toute leur stratégie brand advocacy. Ça, c'est le genre de deal qui tombe du jour au lendemain parce qu'un auditeur t'a recommandé.
C'est ça. Et quand tu sens que tu as un poste qui commence à fonctionner, où tu dis, tiens, j'ai une traction, il se passe quelque chose, comment est-ce que tu mets les bouchées doux pour l'accélérer, ce poste-là? Comment est-ce que tu l'amplifies en disant, tiens, il ne faut pas que je rate le coche? ça me rappelle mon expérience dans la musique. Et Guillaume aussi a connu ça. C'est mettre de l'argent sur une pub télé. Bon, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Ça me rajeunit pas, mais c'est il y a une dizaine d'années, quoi. Dès qu'il y avait un artiste qui commençait à fonctionner en pub télé, on y allait en accélérant, on mettait vraiment du budget média. Mais si on sentait que ça croquait pas, évidemment, on freinait, quoi. Toi, c'est à quel moment tu décides d'accélérer, et est-ce que tu investis aussi de l'argent sur la promotion de tes podcasts, ou est-ce que tu te dis, tiens, je suis une grosse hackeuse, moi, je vais rester là-dessus, j'ai tellement de techniques que je vais m'en servir. Ça m'intéresse de voir comment toi tu vas amplifier un podcast qui commence à marcher.
Alors, la première question, du coup, c'était amplifier un post LinkedIn, ouais, non, par
amplifier
exemple.
Un podcast. Donc, tu as un podcast qui commence à bien fonctionner.
Ouais.
Et tu sens d'ailleurs que celui-là peut générer du business pour ta marque. Mm-hmm. Comment est-ce que tu peux l'accélérer, ce post? Est-ce que tu...
Ouais. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais la méthode, c'est celle que Romain, tu connais, c'est la Content Factory. Elle a plein de noms, ça s'appelle aussi Big Rock Theory, ça s'appelle aussi la pyramide inversée chez Gary V. En fait, c'est à partir de votre contenu, éclatez-le en plusieurs micro-contenus, en fait, pour créer une boucle de croissance. Donc, je vous réponds brièvement parce que ça fera l'objet de toute une conférence tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on crée une boucle de croissance? Bah, on cherche différents médias et on teste pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et je vais vous donner, du coup, moi, ma strat, qui est devenue une strat parce que j'ai testé plein de choses. Ma mère, c'est la première auditrice de mon podcast. Elle adore. Et pourtant, elle a presque 70 ans maintenant, mais elle commence à comprendre presque tout. Et en gros, à chaque fois qu'elle écoute un épisode... Il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup d'anglicisme dans mes épisodes, c'est le monde du marketing. En fait, elle me dit ce qu'elle en a pensé. Elle m'envoie un WhatsApp et c'est un peu, c'est marrant, mais quand on est entrepreneur, on a beaucoup moins de temps pour sa famille qu'avant. Et du coup, moi, mes parents, bah, tous les jours, avoir un podcast de moi qui sort, ils voient un peu ce que je fais comme les stories Instagram. Et ma mère a commencé à m'envoyer tous les jours ce qu'elle pensait de l'épisode. Oh, j'adore Romain, il est toujours très élégant. Oh, Guillaume, c'est la troisième fois qu'il vient dans le podcast, il est toujours aussi charmant. Ah, ta copine Cyrielle de BFM, dis donc, qu'est-ce qu'elle est éloquente. Et en fait, ça, c'est devenu mes post-teasing. Donc voilà, encore une fois, on va vous donner beaucoup de conseils sur comment faire un teasing, tester des choses. Les gens adorent et ils me demandent souvent des nouvelles de ma mère quand il n'y a pas eu de review sur le podcast depuis. En fait, voilà, encore une fois, il faut craquer le truc où vous ne faites pas exactement la même chose que tout le monde et vous créez un petit peu d'émotion et un petit peu de lien. Donc mon teasing, c'est souvent ma mère qui dit « Ah, je ne m'attendais pas à voir tel invité ou tel invité revient. » Après, j'ai la newsletter, évidemment, ça c'est indispensable. Si vous n'avez pas une newsletter, faites une communauté. Je ne veux pas spoiler la conférence que je donnerai après, mais il y a plein de façons malines, encore une fois, de ne pas faire exactement la même chose que tout le monde. Aujourd'hui, vous avez Discord, vous avez WhatsApp for Business, qui est pour moi un peu la nouvelle newsletter. Il y a plein d'autres canaux intelligents pour aller créer des communautés et aller investir des marchés pas saturés.
Non, je te regarde parce que je t'écoute.
Ah, d'accord. Et la dernière chose, et je finirai brièvement là-dessus, du coup, c'est sur LinkedIn, en fait, je crée de la conversation. Et ça, en fait, cet espace, je le mets en avant dès mon épisode de podcast. Et je vous montrerai tout à l'heure. Donc, si vous vous connectez sur Marketing Square, sur un de mes épisodes, vous verrez réagir en direct. Et ça, non seulement c'est intéressant sur le court terme, ça va vous permettre, en fait, de créer justement de l'acquisition vers votre LinkedIn, du LinkedIn vers votre podcast. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que, et j'en parlais avec Tania, aujourd'hui, tout le monde veut acheter des posts LinkedIn. Les annonceurs, ils dépensent 1500 balles pour un post en one-shot qui dure de 24 à 72 heures, si vous avez de la chance. Le podcast, c'est du evergreen. Et ça remonte de mieux en mieux dans les moteurs de recherche. Donc, en fait, vous avez tout intérêt à utiliser aussi le podcast pour prolonger la durée de vie de votre post LinkedIn. Et vous avez compris, c'est de la découvrabilité dans les deux sens. Donc, voilà, je finirai là-dessus. Pourquoi ? Mais encore une fois, vous pouvez faire le teaser sur LinkedIn, des teasers vidéo, des best-of. Vous le verrez tout à l'heure, il y a plein de stratégies.
Génial. C'est un beau teasing pour ta conf de tout à l'heure. On va se donner 10 minutes pour boucler un peu la table ronde. Arthur, toi qui es sur un modèle un peu différent, amplifier des podcasts, sachant que tu es sur un modèle par abonnement, voilà, la question du coup doit prendre une autre forme. Mais comment est-ce que vous y prenez finalement pour faire la promotion de ce que vous produisez et des contenus maison que vous avez produits? Est-ce que tu as des techniques un peu différentes de celles qu'on a présentées là? C'est quoi ton mix sur la partie amplification?
Alors déjà, jusqu'à aujourd'hui, c'était différent. Mais depuis aujourd'hui, nous lançons dans les podcasts gratuits sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. C'était un petit secret. Mais alors techniquement, c'est toujours un secret parce qu'on a décalé l'annonce. Mais bon, comme on est là, autant qu'on se le raconte. Donc on commence par un horoscope. Donc si vous voulez voir ce que les astres ont à vous proposer pour cette semaine. Chacun a peut-être servi Horoscope Magellan sur toutes les plateformes. Et puis on sortira plein de contenu ce mois-ci et le mois prochain, etc. Donc ça va être assez sympa avec des beaux contenus. On a
fait donc c'est des podcasts produits par Magellan que vous diffusez gratuitement sur les plateformes qu'on connaît. Et ça, c'est un nouveau move de votre part.
C'est un nouveau move, c'est complémentaire. Okay. C'est pour toucher plus de gens et justement faire connaître notre particularité. On sort un podcast avec Christophe Rocancourt, himself. Voilà.
Comment vous allez en faire parler de.
Alors, nous, l'avantage, c'est qu'on a réussi à créer une communauté qui est intéressante. Parce que même si on est une plateforme fermée, on a beaucoup travaillé sur tous les réseaux sociaux et on a une grosse communauté sur Instagram, par exemple. On a plus de 20 000 ou 23 000 followers. Alors que évidemment, quand on est une plateforme payante, c'est beaucoup plus difficile techniquement. Mais on a réussi à faire ça parce que justement, on a un petit peu appliqué la même stratégie que Caroline, c'est-à-dire qu'on a testé beaucoup de choses. Nous, par exemple, on s'est rendu compte que il y avait un format qui cartonnait sur nos posts Instagram, c'est la citation. Et c'est tout bête, hein, c'est une citation sur un fond de couleur. Alors ça, c'est de très loin, très très loin, le meilleur engagement. Et meilleur ROI, mais voilà, ça coûte vraiment. Et
est-ce que tu mettrais du paid aujourd'hui pour amplifier?
Alors, sur le paid, étonnamment, c'est d'autres choses qui fonctionnent. Ouais. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que chaque code, chaque chose que tu fais doit correspondre à un objectif très particulier. Le paid ne crée pas réellement de l'engagement. Le paid peut créer de l'acquisition. Le problème du paid, c'est que tu es en concurrence avec tout le monde. On va dire, bah, Magellan, ok, la concurrence, ça va être quoi? Ça va être Cybelle, ça va être Audible, etc., etc. Mais en fait, quand on fait du paid, notre concurrence, c'est Netflix. Parce que sur le divertissement audio, tu as Netflix, Amazon Prime et consorts. Si demain, il y a du paid sur le podcast du Paris Saint-Germain qui est réalisé, bah ouais, mais il y a la série Paris Saint-Germain sur Amazon Prime. Et Amazon Prime, il balance un budget qui est évidemment, qui est probablement le cumulé de tous les budgets de tous les studios réunis et plateformes françaises réunies sur l'année sur un contenu. Donc, c'est toute la problématique est là pour nous. Donc, on a essayé de faire vraiment le maximum de bouche à oreille d'organique, donc on a la même stratégie, c'est-à-dire qu'on découpe. Donc ça va être une citation sur Instagram, ça va être un post beaucoup plus personnel sur LinkedIn, parce que en fait le reach qu'on peut avoir avec Mathieu et mon compte LinkedIn en fait dépasse de très loin le reach qu'on peut avoir sur une page pro de LinkedIn, parce que ça fonctionne pas exactement de la même manière. Sur Twitter, ça va être on essaye d'avoir des retweets, et donc ça va être encore une autre stratégie. Donc on essaye sur chaque réseau d'avoir une stratégie très particulière. Nous, ce qui fonctionne très bien, c'est la newsletter. La newsletter, c'est vraiment un des trucs qui est le moins considéré, parce qu'on va dire, bah ouais, mais il y a 1,5 ou 2% de taux d'ouverture, sauf qu'en fait, il y a des taux de clics qui sont démentiels, et notamment
donc, sur finalement, les bonnes données techniques, alors, tu les recommandes aussi.
On a rien trouvé de si innovant que ça de notre stratégie d'acquisition, parce que de toute façon, ça coûte tellement cher de faire de l'acquisition dans le monde du contenu payante que dans tous les cas, il vaut mieux investir sur le gratuit et par exemple lancer des podcasts en gratuit devrait largement dépasser nos espérances en termes d'acquisition d'auditeurs et de
Pierre, tu voulais peut-être réagir.
On parle de stratégie paid sur des réseaux sociaux qui ne sont pas audio. Donc forcément, ça a beaucoup de limites. Et je pense que c'est excellent d'avoir une stratégie sociale pour continuer à créer du lien avec la communauté qui a pu être créée via le podcast et continuer de renforcer cela. Par contre, moi, de tous les tests que j'ai pu faire, essayer de faire de l'acquisition d'écoute, d'abonnés à un podcast via une stratégie sociale, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a des événements. Moi, quand je fais des stratégies d'acquisition, je regarde le nombre d'événements. Et il y a trop d'événements qui rentrent en jeu pour qu'il y ait une conversion cohérente. Ouais. Est-ce que mon audience est déjà dans une posture ou dans une capacité d'être à l'écoute de ce que j'ai à lui raconter? Est-ce qu'elle va avoir le casque sur les oreilles? Est-ce que ça? Donc en fait, tu touches des gens qui ne sont pas dans un moment d'écoute. Donc il vaut mieux leur dire, viens regarder la magie que je crée en termes, et c'est l'exemple de Caroline quand elle raconte le poste de sa maman. Moi, ça va m'intéresser. Je vais me dire, tiens, Il y a du relationnel, il y a une histoire qui est créée, cette communauté m'intéresse, je vais rejoindre cette communauté et j'écouterai peut-être le podcast dans 24 heures ou 48 heures quand je serai dans un bon moment. Ah par contre, se dire, allez, je vais mettre 50 000 euros de budget média social pour acquérir des écoutes, ne le faites surtout pas.
C'est sûrement un sujet de timing aussi à t'écouter.
Exactement, et c'est pour ça qu'on a créé cette solution où tu viens chercher des écoutes auprès de gens qui sont déjà en train d'écouter.
Alors, je vais te poser une question. On va boucler la table ronde. Promis, on est très légèrement en retard, mais on va prendre 5 à 8 minutes. Je sais pas si vous voyez tous ce qu'est la North Star métrique. Pour nous, les marketeurs, parfois, c'est une évidence, mais c'est l'étoile du berger. C'est quoi le truc, le KPI qu'on veut absolument suivre quand on est une société et qui va nous révéler énormément de choses sur la santé de ce qu'on est en train de mettre en place? Par exemple, la North Star métrique de Podinstall ou de Bababam, ce serait quoi aujourd'hui et comment vous la suivez?
On est très, très data. On vient de recruter un COO qui vient de chez Believe. Okay. Donc, industrie musicale, et où il était énormément dans le suivi des KPI par rapport à tous les catalogues de musique et la mise à disposition. On est ultra data focus. On a un Slack où on a tous les matins les data clés de la boîte qui sont remontées et ressorties.
Okay. Si on n'avait qu'une, ce serait quoi?
Si on devait en retenir qu'une, aujourd'hui, j'ai du mal à en retenir qu'une.
Ouais. C'est ça le principe. C'est qu'il n'y a qu'une étoile du berger.
Non, mais ouais, si moi, en tant que founder et ayant mis des parts de mon argent dans cette société, c'est le revenu. Réussir dans une industrie de création de contenu à sortir un revenu. Ah ouais. Ça, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est ma métrique. C'est pas forcément la métrique de mes équipes. Ouais. Et la métrique de mes équipes, c'est le temps moyen d'écoute.
D'accord. Ça m'intéresse. Et si tu ramenais ça à tes clients? Ceux de Bababam, c'est quoi, d'après toi, le sujet qu'ils vont le plus suivre et comment tu leur permets de le suivre? Est-ce que tu as un dashboard qui permet de faire ça?
La solution donc, qui s'appelle Podinstall, qui est un produit qui appartient à Bababam, il y a un back-office. Et sur ce back-office, en fait, n'importe qui, créateur de contenu ou marque, ou même les agences médias qui aujourd'hui font des plans médias pour des annonceurs, se connectent sur le back-office et vont pouvoir voir le nombre de pages vues, parce qu'on est sur du web, donc il y a une page vue, le nombre d'écoutes, le temps moyen d'écoute, la complétion par quartile. Ils vont pouvoir voir les sources.
Ils peuvent
mettre en place des UTM. C'est le temps moyen d'écoute.
Okay. C'est une constellation.
C'est s'il y en avait qu'une, c'est le temps moyen d'écoute. Moi, c'est ce que je mets en avant toujours dans tous les bilans, parce qu'en fait, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit.
Ça ment pas, en fait.
C'est surtout qu'aujourd'hui, moi je viens de la vidéo, on avait fondé une société qui était rachetée par Prisma et que Gwendoline pilote maintenant, le monde est petit. Mais du coup, cette société, elle faisait de la vidéo, on faisait 1 milliard de streams. On parlait en milliards, en fait. Mm-hmm. Dans les écoutes, on parle pas. Quand on arrive à parler en centaines de milliers, on est déjà hyper content. Mm-hmm. Donc forcément, on regarde le temps. Mais quand tu regardes le temps moyen d'écoute, c'est là que tu te dis, mais en fait, je suis pas si loin du milliard. Ah ouais. Parce que si je compare le temps d'attention que j'ai eu en vidéo snacké par rapport à un temps d'attention podcast, tu retrouves la valeur ici. Et puis, on voit aussi une forte croissance. Mais donc, temps moyen d'écoute.
C'est ça. Et Sandrine, c'est le cas pour toi aussi?
On est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle le taux de complétion. Ok. Oui. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je mets en avant dans les datas. Alors, c'est de l'éducation. Hein. En tout cas, pour une marque, une enseigne et j'ai envie de dire un retailer, puisque malgré tout, Decathlon, c'est du retail. Tout à l'heure, je parlais de combat. Oui, donc c'est un combat. Donc, il y a une histoire d'éducation et les écoutes, pour moi, c'est quand même bien moins important que le taux de complétion. C'est un argument de qualité. Enfin, ça veut dire qu'effectivement, le contenu que l'on a produit intéresse, est intéressant. Ouais. On peut continuer dans cette voie ou pas. Mm-hmm. Mais oui, c'est la data que je mets.
Tu préfères presque te dire, tiens, je suis écouté par peu de monde. Mais oui, c'est toujours un indicateur fort que de se dire mes premiers users, mes premiers écouteurs écoutent vraiment, prennent le temps d'écouter mon podcast, donc je sais que j'avance dans la bonne direction.
Exact.
Après, il y aura le sujet quand même de rendre, c'est tout ce qu'on vient de se partager là, mais le podcast.
De le rendre visible, disponible.
Et ça, tu le suis via du coup via quel outil
Eh bien, via Ocha.
Et c'est quoi, t'as un dashboard en fait qui te permet de suivre?
Oui, on va appeler ça un dashboard. Alors je me souviens qu'au démarrage du podcast, je le regardais limite toutes les 30 minutes. Ouais. C'était une espèce de psychose. Je sais pas si tout le monde a fait ça,
on connaît.
Complètement Maintenant, j'essaye, je suis une thérapie pour le regarder moins souvent, donc peut-être tous les 48 heures. Des fois, je me dis, oh, je vais regarder. Non, je me force à pas regarder. Mais oui, c'est peut-être quelque chose, ce tableau de bord qui est très facile à regarder, qui est très facile à suivre, qui est très facile à comprendre. Je regarde, oui, tous les, je sais pas, bon, allez, 48 heures.
Ah, quand même. Ouais. Et donc, tu peux nous en dire un mot, peut-être, Jennifer, genre, ça suit toutes les plateformes, du coup, tu suis.
Ah, oui, tout à fait.
Tu suis quel type d'indicateur, là? T'as le droit à en citer plus qu'une Nordstar?
Ouais, il y en a un paquet, parce que, effectivement, nous aussi, au Codir d'Ocha, on est une bonne bande de data junkies. Donc, on a fait en sorte, effectivement, de pouvoir suivre, en fait, tous les data qui étaient possibles de suivre à date sur le marché du podcast. Chaque jour, on a des nouvelles données qui arrivent, donc on est content à chaque fois, on met tous les moyens à disposition pour les rajouter sur le dashboard. Yes. On va pouvoir suivre, dans les grandes lignes, hein, évidemment, tout ce qui est en nombre d'écoutes, en nombre d'auditeurs uniques, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, comme disait Arthur, quand on en a qui sont un peu psycho et qui vont écouter 10 000 fois le même épisode, il est compté comme un auditeur unique, et c'est intéressant de le voir comme ça, de voir la taille de communauté aussi qu'on arrive à obtenir. On a évidemment effectivement le taux de complétion par épisode et des données aussi de profilage des auditeurs avec le genre, tout ça, et la géographie, et évidemment donc toutes les sources d'écoute, que ça vienne des plateformes ou des sources externes, effectivement sur les sites et autres. Et puis après, on va surtout aussi mettre en place des outils pour que ce soit plus sympa et facile à utiliser et à analyser, comme des outils pour comparer des données d'écoute par lancement d'épisode. Parce que c'est intéressant de se rendre compte aussi dans son contenu, comment on fait pour mieux travailler son contenu. Bah, si un épisode fait un meilleur lancement qu'un autre, ça donne aussi des premières pistes. Donc on permet de comparer ça hyper facilement. Cool.
C'est toujours un truc qui m'a intéressé, c'est est-ce que notre propre performance est bonne par rapport aux autres acteurs du marché ? Est-ce que parfois vous permettez de comparer un peu ce que les uns et les autres font? Mais c'est là, on est super contents, ouais. En fait. Ah merde, en fait non.
C'est la grande question qu'on nous pose tout le temps. Sandrine, elle a dû nous le poser quelques paires de fois.
N'importe quoi. Elle ment. Cette personne ment.
Non, je n'ai jamais accepté les pots de vin de Sandrine jusqu'à maintenant. En fait, on garde évidemment de manière confidentielle quand même toutes les statistiques des podcasts qui sont hébergés chez nous. Mais on est sur des projets pour pouvoir donner un minimum de référence. Bon,
super. Peut-être Caroline et Arthur, si vous voulez dire un dernier mot. Toi, tu suis le truc qui t'obsède. Enfin, j'ai l'impression que c'est ton propre plaisir, ton KPI. Tu t'amuses. Non, mais tu fais tes trucs, ça se passe bien.
Je sais pas comment faire.
Ouais, il est important, celui-là.
Ma North Star métrique, moi, c'est clairement la croissance de mon podcast. Donc, c'est les écoutes cumulées. Et je vous donne pour ceux qui sont jeunes podcasteurs parmi nous, sur le taux de complétion, si vous voyez que, en fait, votre taux de complétion, il est stable. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des épisodes qui sont des fours où les gens y décrochent rapidement. Mais si vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un taux de complétion moyen qui est stable, c'est-à-dire sur tous les épisodes, c'est à peu près 20 minutes. Bah, c'est peut-être un signal fort pour faire évoluer votre format. Parce que c'est peut-être que votre auditeur, ça correspond à la durée moyenne le matin quand il vous écoute de son transport, dans les transports en commun ou en voiture. Donc voilà, ça c'est un truc tout bête, mais que j'ai appris aussi sur le terrain et qu'on ne m'avait pas dit. Et le taux de complétion, j'étais là, oui, ça me permet de voir les épisodes les plus intéressants, ceux qui... Non, c'est aussi, vous êtes dans la réalité des gens et peut-être qu'on vous écoute en faisant le ménage ou peut-être qu'on vous écoute en allant au travail. Donc voilà, moi je ne suis pas trop le taux de complétion, juste pour vérifier que mon format, il est bon, mais maintenant vous savez un peu comment l'augmenter si vous avez un problème.
Je pense que c'est un super bon conseil, ouais. Préparez votre question, il y en aura deux, je vous préviens. Et après, ça sent bon, là, il y a des choses qui sortent du four, on va aller gagnoter quelque chose.
Je trouve que c'est quand même intéressant parce que les réponses prouvent aussi que le marché du podcast est un jeune marché, en fait. Parce qu'un marché sur lequel il n'y a pas une North Star si évidente, c'est souvent parce que justement le marché quand même continue à se chercher malgré les années. Parce qu'au fond, pour nous, c'est évidemment sur l'application, ce sont les abonnés, sur ce qui est gratuit, sur le nombre d'auditeurs. Et la seule chose qui compte pour la boîte, c'est combien on fait d'oseille, parce que c'est le moyen de payer des salaires, même si on est très bon en levée de fonds. Mais le temps passe et l'argent avec. Donc, au bout d'un moment, il faut bien faire un petit peu de chiffres. Mais je suis addict aussi. On a créé notre propre dashboard chez Magellan où on traque 1 milliard de data. L'avantage d'avoir notre propre app, c'est que pour le coup, on maîtrise tout, vraiment. Et je passe peut-être 2 heures par jour sur mon dashboard, juste à analyser les data. Et évidemment, ce qui est très fort dans le podcast, c'est le taux de complétion et la durée moyenne d'écoute. par écoute est colossal.
Et ça vous amènerait aussi, comme Caroline le suggérait, à adapter certains de vos épisodes, à les raccourcir.
On a changé tout, mais nous, on change aussi les visuels en fonction des datas. On a fait 5-6 fois des rebrandings complets de toute l'application en termes de visuels, parce qu'on voit qu'il y a des énormes impacts, et format par format. Alors quand on rentre dans le détail de chaque format, c'est assez, assez impressionnant de voir à quel point on peut augmenter de 25% n'importe quel critère juste en changeant un élément visuel. Ce que je dis souvent aux équipes, parce que de base je venais pas de l'audio, c'est avant même de savoir si le contenu marche, de savoir si le contenu l'écoute, il faut que les gens le voient visuellement. Et s'ils ne cliquent pas,
ça c'est manuel, c'est changement de visuel, vous le faites à la main. Alors,
Ouais, j'ai pas encore les budgets de Netflix sur la tech. Donc
non, mais vous ajustez, vous dites tiens, il y a un truc qu'on va tester, on va B-tester ce truc-là, on le fait sans se poser trop de questions.
Et ça prend 3 minutes derrière à uploader, mais il faut être assez libre. Et je sais que Caro a une super histoire sur le changement de nom de son podcast, que je vous souhaite qu'elle vous raconte un jour, parce que
Il faut vraiment
venir. Mais on est une bonne team pour vendre du rêve.
Super, bon, mortel, merci Arthur. Qui a une petite question à poser là? Qui se lance? Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y.
Ouais, juste rebondir. Je suis d'accord et pas d'accord avec Arthur. Je pense que oui, c'est encore un marché qui n'est pas structuré, mais on commence à voir des signes très concrets de structuration, dans le sens où, justement, par rapport à cette North Star métrique, tu m'as posé la question par rapport à mes salariés, par rapport à nos clients, la North Star métrique, c'est le nombre d'écoutes cumulées. Et la fameuse question tarte à la crème de c'est quoi un bon podcast de marque, ça fait combien d'écoutes? Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment, c'était pas le cas il y a 18 mois, il y a vraiment une target de 100 000 écoutes pour pouvoir se dire j'ai investi dans un nouveau format et j'ai une réussite. En tout cas, sur les annonceurs, avec la typologie d'annonceurs avec lesquels on travaille.
Il y a un annonceur qui vient te dire je veux que tu m'aides à passer de mes 5 000 écoutes organiques à 100 000 écoutes. Comment est-ce qu'on fait?
C'est une problématique. C'est entre autres pour ça qu'on a cette solution média. Alors, tu ne feras jamais 95% de paid, ça c'est un non-sens. L'idée, c'est d'aller chercher de l'organique aussi.
Bien sûr.
Mais on est quand même dans un marché qui se structure avec des codes, avec des agences médias qui commencent à comprendre les différents dispositifs pour accompagner sur une partie média les productions de contenu audio, avec des groupes médias comme Prisma, et Gwendoline en a parlé, qui peuvent aussi proposer des cautions de marque pour amplifier aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux pas que le public sorte en se disant « Ouais, c'est encore des artisans et tout. » C'était le cas il y a 3 ans quand on s'est tous lancés, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que la technologie aujourd'hui est en train de nous aider à répondre à l'amplification du podcast de plein de façons. On le voit très bien via des hacks, via des outils, mais que les bonnes techniques à l'ancienne aussi servent toujours. Il ne faut pas se les interdire, je pense que tout ça est complémentaire.